Que la personnalité est de l'unité, cela est certain. Mais pareille affirmation ne m'apprend rien sur la nature extraordinaire de cette unité qu'est la personne. Que notre moi soit multiple, je l'accorde encore. Mais il y a là une multiplicité dont il faudra bien reconnaître qu'elle n'a rien de commun avec aucune autre. Ce qui importe véritablement à la philosophie, c'est de savoir quelle unité, quelle multiplicité, quelle réalité supérieure à l'un et au multiple abstrait est l'unité multiple de la personne. Et elle ne le saura que si elle ressaisit l'intuition simple du moi par le moi. Alors, selon la pente qu'elle choisira pour redescendre de ce sommet, elle aboutira à l'unité, ou à la multiplicité, ou à l'un quelconque des concepts par lesquels on essaie de définir la vie mouvante de la personne. Mais aucun mélange de ces concepts entre eux, nous le répétons, ne donnerait rien qui ressemble à la personne qui dure. Présentez-moi un cône solide. Je vois sans peine comment il se rétrécit vers le sommet et tend à se confondre avec un point mathématique, comment aussi il s'élargit par sa base en un cercle indéfiniment grandissant. Mais ni le point, ni le cercle, ni la juxtaposition des deux sur un plan ne me donneront la moindre idée d'un cône. Ainsi, pour la multiplicité et l'unité de la vie psychologique. Ainsi pour le zéro et l'infini, vers lesquels empirisme et rationalisme acheminent la personnalité. Les concepts, comme nous le montrerons ailleurs, vont d'ordinaire par couple et représentent les deux contraires. Il n'est guère de réalité concrète sur laquelle on ne puisse prendre à la fois les deux vues opposées et qui ne se subsume par conséquent aux deux concepts antagonistes. De là une thèse et une antithèse qu'on chercherait en vain à réconcilier logiquement, pour la raison très simple que jamais avec des concepts ou points de vue, on ne fera une chose. Mais de l'objet, saisi par l'intuition, on passe sans peine, dans bien des cas, aux deux concepts contraires. Et, comme par là on voit sortir de la réalité la thèse et l'antithèse, on saisit du même coup comment cette thèse et cette antithèse s'opposent et comment elles se réconcilient. Il est vrai qu'il faut procéder pour cela à un renversement du travail habituel de l'intelligence. Penser consiste ordinairement à aller des concepts aux choses, et non pas des choses au concept. Connaître une réalité, c'est au sens usuel du mot connaître, prendre des concepts déjà faits, les doser et les combiner ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne un équivalent pratique du réel. Mais il ne faut pas oublier que le travail normal de l'intelligence est loin d'être un travail désintéressé. Nous ne visons pas en général à connaître pour connaître, mais à connaître pour un parti à prendre, pour un profit à retirer, enfin pour un intérêt à satisfaire. Nous cherchons jusqu'à quel point l'objet à connaître est ceci ou cela, dans quel genre connu il rentre, quelle espèce d'action, de démarche ou d'attitude il devrait nous suggérer. Ces diverses actions et attitudes possibles sont autant de directions conceptuelles de notre pensée, déterminées une fois pour toutes. Il ne reste plus qu'à les suivre. En cela consiste précisément l'application des concepts aux choses. Essayer un concept à un objet, c'est demander à l'objet ce que nous avons à faire de lui, ce qu'il peut faire pour nous. Coller sur un objet l'étiquette d'un concept, c'est marquer en termes précis le genre d'action ou d'attitude que l'objet devra nous suggérer. Toute connaissance proprement dite est donc orientée dans une certaine direction ou prise d'un certain point de vue. Il est vrai que notre intérêt est souvent complexe, et c'est pourquoi il nous arrive d'orienter dans plusieurs directions successives notre connaissance du même objet et de faire varier sur lui les points de vue. En cela consiste, au sens usuel de ces termes, une connaissance large et compréhensive de l'objet. L'objet est ramené alors, non pas à un concept unique, mais à plusieurs concepts dont il est censé participer. Comment participe-t-il de tous ces concepts à la fois? C'est là une question qui n'importe pas à la pratique et qu'on n'a pas à se poser. Il est donc naturel, il est donc légitime que nous procédions par juxtaposition et dosage de concepts dans la vie courante. Aucune difficulté philosophique ne naîtra de là, puisque, par convention tacite, nous nous abstiendrons de philosopher. Mais transportez ce modus operandi à la philosophie. Allez, ici encore, des concepts à la chose. Utilisez, pour la connaissance désintéressée d'un objet qu'on vise cette fois à atteindre en lui-même, une manière de connaître qui s'inspire d'un intérêt déterminé et qui consiste, par définition, en une vue prise sur l'objet extérieurement, c'est tourner le dos au but qu'on visait. C'est condamner la philosophie à un éternel tiraillement entre les écoles. C'est installer la contradiction au cœur même de l'objet et de la méthode. Où il n'y a pas de philosophie possible, et toute connaissance des choses est une connaissance pratique orientée vers le profit à tirer d'elle, où philosopher consiste à se placer dans l'objet même par un effort d'intuition. Mais pour comprendre la nature de cette intuition, pour déterminer avec précision où l'intuition finit et où commence l'analyse, il faut revenir à ce qui a été dit plus haut de l'écoulement de la durée. On remarquera que les concepts ou schémas auxquels l'analyse aboutit ont pour caractère essentiel d'être immobile pendant qu'on les considère. J'ai isolé du tout de la vie intérieure cette entité psychologique que j'appelle une sensation simple. Tant que je l'étudie, je suppose qu'elle reste ce qu'elle est. Si j'y trouvais quelques changements, je dirais qu'il n'y a pas là une sensation unique, mais plusieurs sensations successives. Et c'est à chacune de ces sensations successives que je transporterais alors l'immutabilité attribuée d'abord à la sensation d'ensemble. De toute manière, je pourrais, en poussant l'analyse assez loin, arriver à des éléments que je tiendrais pour immuables. C'est là, et là seulement, que je trouverai la base d'opérations solides dont la science a besoin pour son développement propre. Pourtant, il n'y a pas d'état d'âme, si simple soit-il, qui ne change à tout instant, puisqu'il n'y a pas de conscience sans mémoire, pas de continuation d'un état sans l'addition au sentiment présent du souvenir des moments passés. En cela consiste la durée. La durée intérieure est la vie continue d'une mémoire qui prolonge le passé dans le présent. Soit que le présent renferme distinctement l'image sans cesse grandissante du passé, soit plutôt qu'il témoigne, par son continuel changement de qualité, de la charge toujours plus lourde qu'on traîne derrière soi à mesure qu'on vieillit davantage. Sans cette survivance du passé dans le présent, il n'y aurait pas de durée, mais seulement de l'instantanéité. Il est vrai que, si l'on me reproche de soustraire l'état psychologique à la durée, par cela seul que je l'analyse, Je m'en défendrai en disant que chacun de ces états psychologiques élémentaires, auxquels mon analyse aboutit, est un état qui occupe encore du temps. Mon analyse, dirais-je, résout bien la vie intérieure en état dont chacun est homogène avec lui-même. Seulement, puisque l'homogénéité s'étend sur un nombre déterminé de minutes ou de secondes, l'état psychologique élémentaire ne cesse pas de durer, encore qu'il ne change pas. Mais qui ne voit que le nombre déterminé de minutes et de secondes que j'attribue à l'état psychologique élémentaire a tout juste la valeur d'un indice destiné à me rappeler que l'état psychologique supposé homogène est en réalité un état qui change et qui dure. L'état pris en lui-même est un perpétuel devenir. J'ai extrait de ce devenir une certaine moyenne de qualité que j'ai supposée invariable. J'ai constitué ainsi un état stable et par là même schématique. J'en ai extrait d'autre part le devenir en général, le devenir qui ne serait pas plus le devenir de ceci que de cela. Et c'est ce que j'ai appelé le temps que cet état occupe. En y regardant de plus près, je verrai que ce temps abstrait est aussi immobile pour moi que l'état que j'y localise, qu'il ne pourrait s'écouler que par un changement de qualité continuelle, et que, s'il est sans qualité, simple théâtre de changement, il devient ainsi un milieu immobile. Je verrai que l'hypothèse de ce temps homogène est simplement destinée à faciliter la comparaison entre les diverses durées concrètes, à nous permettre de compter des simultanéités et de mesurer un écoulement de durée par rapport à un autre. Et enfin, je comprendrai qu'en accolant à la représentation d'un état psychologique élémentaire l'indication d'un nombre déterminé de minutes et de secondes, je me borne à rappeler que l'état a été détaché d'un moi qui dure, et à délimiter la place où il faudrait le remettre en mouvement pour le ramener, de simple schéma qu'il est devenu, à la forme concrète qu'il avait d'abord. Mais j'oublie tout cela, n'en ayant que faire dans l'analyse. C'est dire que l'analyse opère sur l'immobile, tandis que l'intuition se place dans la mobilité, ou ce qui revient au même, dans la durée. Là est la ligne de démarcation bien nette entre l'intuition et l'analyse. On reconnaît le réel, le vécu, le concret, à ce qu'il est la variabilité même. On reconnaît l'élément à ce qu'il est invariable. Et il est invariable par définition, étant un schéma, une reconstruction simplifiée, souvent un simple symbole, en tout cas une vue prise sur la réalité qui s'écoule. Mais l'erreur est de croire qu'avec ces schémas, on recomposerait le réel. Nous ne saurions trop le répéter. De l'intuition, on peut passer à l'analyse, mais non pas de l'analyse à l'intuition. Avec de la variabilité, je ferai autant de variations, autant de qualités ou modifications qu'il me plaira. Parce que ce sont là autant de vues immobiles, prises par l'analyse, sur la mobilité donnée à l'intuition. Mais ces modifications, mises bout à bout, ne produiront rien qui ressemble à la variabilité, parce qu'elles n'en étaient pas des parties, mais des éléments, ce qui est tout autre chose. Considérons par exemple la variabilité la plus voisine de l'homogénéité, le mouvement dans l'espace. Je puis, tout le long de ce mouvement, me représenter des arrêts possibles. C'est ce que j'appelle les positions du mobile, ou les points par lesquels le mobile passe. Mais avec les positions, fussent-elles en nombre infini, je ne ferai pas du mouvement. Elles ne sont pas des parties du mouvement, elles sont autant de vues prises sur lui. Elles ne sont, pourrait-on dire, que des suppositions d'arrêt. Jamais le mobile n'est réellement en aucun des points. Tout au plus peut-on dire qu'il y passe. Mais le passage, qui est un mouvement, n'a rien de commun avec un arrêt, qui est immobilité. Un mouvement ne saurait se poser sur une immobilité, car il coïnciderait alors avec elle, ce qui serait contradictoire. Les points ne sont pas dans le mouvement, comme des parties, ni même sous le mouvement, comme des lieux du mobile. Ils sont simplement projetés par nous au-dessous du mouvement, comme autant de lieux où serait, s'il s'arrêtait, un mobile qui, par hypothèse, ne s'arrête pas. Ce ne sont donc pas à proprement parler des positions, mais des suppositions, des vues ou des points de vue de l'esprit. Comment, avec des points de vue, construirait-on une chose? C'est pourtant ce que nous essayons de faire toutes les fois que nous raisonnons sur le mouvement, et aussi sur le temps auquel le mouvement sert de représentation. Par une illusion profondément enracinée dans notre esprit, et parce que nous ne pouvons nous empêcher de considérer l'analyse comme équivalente à l'intuition, nous commençons par distinguer, tout le long du mouvement, un certain nombre d'arrêts possibles ou de points, dont nous faisons, bon gré mal gré, des parties du mouvement. Devant notre impuissance à recomposer le mouvement avec ses points, nous intercalons d'autres points, croyant serrer ainsi de plus près ce qu'il y a de mobilité dans le mouvement. Puis, comme la mobilité nous échappe encore, nous substituons à un nombre fini et arrêté de points un nombre indéfiniment croissant, essayant ainsi, mais en vain, de contrefaire par le mouvement de notre pensée, qui poursuit indéfiniment l'addition des points aux points, le mouvement réel et indivisé du mobile. Finalement, nous disons que le mouvement se compose de points, mais qu'il comprend, en outre, le passage obscur, mystérieux, d'une position à la position suivante. Comme si l'obscurité ne venait pas tout entière de ce qu'on a supposé l'immobilité plus claire que la mobilité, l'arrêt antérieur au mouvement. Comme si le mystère ne tenait pas à ce qu'on prétend aller des arrêts au mouvement par voie de composition, ce qui est impossible, alors qu'on passe sans peine du mouvement au ralentissement et à l'immobilité. Vous avez cherché la signification du poème dans la forme des lettres qui le composent. Vous avez cru qu'en considérant un nombre croissant de lettres, vous étreindriez enfin la signification qui fuit toujours. Et en désespoir de cause, voyant qu'il ne servait à rien de chercher une partie du sens dans chacune des lettres, vous avez supposé qu'entre chaque lettre et la suivante, se logeait le fragment cherché du sens mystérieux. Mais les lettres, encore une fois, ne sont pas des parties de la chose, ce sont des éléments du symbole. Les positions du mobile, encore une fois, ne sont pas des parties du mouvement. Elles sont des points de l'espace qui est censé sous-tendre le mouvement. Cet espace immobile et vide, simplement conçu, jamais perçu, a tout juste la valeur d'un symbole. Comment, en manipulant des symboles, fabriqueriez-vous de la réalité ?